Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial sur la clé des ondes, tous les mercredis à 13h. Rediffusé le dimanche à 18h et quand vous voulez, en podcast.
Bonjour et bienvenue sur La Clé des Ondes pour une nouvelle émission du Guide du Bordeaux colonial. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir à nouveau Beata Oumoumbi-Imérès pour son nouvel ouvrage, un récit intitulé « Le Convoi ». Jean-François Miquel, donc, dans le rôle de l'animateur, Hugo Manette, merci Hugo. Une émission en direct pendant laquelle nous entendrons quelques musiques choisies par notre invité, qui sera d'ailleurs sommé de s'en expliquer. Bonjour Beata.
Bonjour.
Et d'abord, en introduction, je voudrais faire cette remarque que je chippe au papier à propos de votre livre que j'ai produit pour la revue Ancrage d'avril et qui dit ceci. Drôle de monde que celui de la critique littéraire, singulièrement parisienne, mais hors Paris, point de salut, qui peut quasiment ignorer pendant des années des auteurs et tout à coup les découvrir. Alors enfin, ils sont chroniqués, interviewés dans tous les grands quotidiens, hebdo, émissions de télé et de radio, et c'est tant mieux. Ce fut donc le cas cet hiver pour deux auteurs bordelais, vous, Beata, et puis pour Hervé Lecor, qui, pour son livre, qui après nous vivrait chez Rivage Noir. Et je précise dans ce papier, avec un peu de flagornerie, deux auteurs qu'Ancrage vous présente depuis longtemps dans sa rubrique Mémoire des livres. oui. Et Beata, est-ce que vous avez une explication à ça? Alors, ce n'est pas tout à fait vrai pour vous, parce que les Parisiens, il y a quand même déjà un petit moment qui vous ont reconnu, d'une certaine manière. Mais cette année, avec ce convoi, vous êtes partout. Et tant mieux, je disais.
J'ai l'impression qu'Hervé Lecor, il est quand même connu nationalement depuis un certain moment aussi. Moi, j'avais entendu avec beaucoup de plaisir chez Augustin Trapenard dans l'émission sur France Inter Boomerang il y a quelques années. Après, évidemment, on ne sait jamais s'expliquer pourquoi c'est ce livre plutôt qu'un autre qui va attirer le plus d'attention. Bon, évidemment, pour ce qui est du convoi, il y a 30 ans, donc il y a une date un peu anniversaire comme ça. Je pense aussi que ces dernières années, de nombreux journalistes ont parlé du Rwanda et j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience un peu plus importante au niveau national de la réalité de cette histoire. Et puis pour le reste, eh bien, c'est un mystère, c'est le mystère de la littérature et des médias.
Alors, petit portrait préalable, vous êtes né à Butare, on le dit comme ça, hein,
oui.
au sud-ouest du Rwanda, pas loin de la frontière avec le Burundi. C'était en 1979, votre maman est Tutsi, votre père polonais, mais ce dernier disparaît très tôt dans votre vie. Et pourtant, vous lui devez votre métissage et cette peau claire, ce qui vous sera bien utile, on y reviendra. Avec votre mère, vous échappez au massacre des vôtres et quittez le Rwanda dans le convoi du 18 juin 1994. C'est donc le sujet du nouveau livre. Vous avez à l'époque 15 ans et donc une nouvelle vie commence en France, à Lille plus précisément. Vous faites des études littéraires, vous faites l'Institut d'études politiques et ensuite un DESS en coopération internationale et développement à Panthéon-Sorbonne. C'est un beau parcours universitaire ça, Béatin.
Quand je vous entends, je me dis que c'est un parcours comme il est difficile de faire aujourd'hui pour un réfugié qui arriverait. J'ai l'impression que j'ai été parmi les dernières bénéficiaires d'un système d'accueil et d'intégration républicain. Parce que c'est ça, c'est que j'ai été... évidemment, j'ai été accueillie par une famille d'accueil française, donc il y a aussi quelque chose de l'ordre plutôt de la charité, mais j'ai pu bénéficier d'une prise en charge, d'une bourse, d'études qui étaient accessibles. Alors voilà, sans vouloir être l'arbre qui cache la forêt, il y a un côté un peu produit de la méritocratie républicaine, mais qui a été possible et qui je pense, ne l'est plus beaucoup aujourd'hui, quoi, 30 ans après.
Alors, vous travaillez dans des ONG internationales. Là aussi, c'est pas par hasard, j'imagine. On le verra à propos de ce livre. Le fait de travailler dans l'humanitaire.
Non, évidemment. Évidemment, a posteriori, je me dis que j'ai quand même choisi aussi des métiers et des thématiques qui, en schématisant, consistaient à lutter contre la mort, ce qui, pour une survivante, est un peu est évident comme ça. Mais en tout cas, quand il s'est agi pour moi, à l'âge de 20 ans, de choisir un métier... de façon un peu romantique, comme on peut l'être, hein, à 20 ans, je me suis engagée dans ce qu'on appelle l'humanitaire. Et puis, petit à petit, les déplacements de la vie faisant, j'ai terminé à Bordeaux,
Alors voilà, en 2007, vous installez à Bordeaux. Là aussi, vous continuez à travailler, vous coordonnez des projets de prévention dans le domaine de la santé.
Oui.
Vous y animez, depuis déjà quelques années, un cercle de lecture afro-caribéenne. Et pour être très complet, vous êtes marié, vous avez deux fils, dont l'aîné a maintenant quasiment l'âge que vous aviez quand vous êtes arrivé en France.
Oui.
En 2015, début de la littérature, de votre entrée en littérature, vous publiez Ejo. Pas si on prononce comme ça, c'est un recueil de nouvelles, puis un deuxième intitulé Lézarde, puis un roman, je repasse un peu, mais un roman, Tous les enfants dispersés, 2019, et puis Consolé, c'était l'an passé, vous étiez déjà venu ici nous en parler, et aujourd'hui donc, avec Le Convoi, vous êtes publié chez Flammarion.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial sur la clé des ondes.
Alors, Le Convoi, qu'est-ce qui déclenche l'écriture de ce livre? On devrait plutôt dire cette enquête, compte tenu que vous expliquez que vous avez attendu 15 ans pour vous pencher, pour vous autoriser à parler de votre histoire personnelle. Quel est le déclencheur?
Le déclencheur, au départ, ce n'est pas du tout un projet de livre. C'est, donc il y a une quinzaine d'années, l'envie de retrouver une image sur laquelle je pense figurer, ainsi que ma mère, puisque quand nous avons traversé la frontière en 1994, donc on a pu quitter le pays grâce à un convoi humanitaire de l'ONG suisse Terre des Hommes, des gens nous ont dit, un peu après, nous avoir vus à la télévision britannique, à la BBC. Et il se fait que ce jour-là, nous avions remarqué qu'il y avait des blancs qui filmaient, des caméras, une caméra. Mais cette information, quelque part, elle se met dans un coin de ma tête, et puis, dans l'immédiat, après 1994, je suis dans une démarche de refaire ma vie, donc je fais mes études, trouve un métier, je construis ma vie. Et il se fait, et là aussi, c'est a posteriori, quand j'ai commencé à écrire le livre, que je me suis dit, mais en réalité, ça fait sens. C'est au moment où je suis enceinte de mon premier enfant que je décide, poussée par mon mari, qui m'y incite, en disant, tu voudrais pas retrouver cette image, décide de rentrer en contact avec les journalistes de la BBC, sans savoir au départ qui ils sont, comment les retrouver. Enfin, c'est vraiment une enquête, mais au début, c'est une sorte de courriel envoyé comme on jette une bouteille à la mer, en disant, voilà, on nous a dit nous avoir vus à la télévision. Est-ce que, par hasard, c'est vous qui avez été ce jour-là à la frontière, c'est vous qui avez filmé, est-ce que vous avez des images? Voilà comment tout commence.
Et un mot quand même, dès maintenant, sur le titre. Le convoi qui renvoie à d'autres convois, mais là on est quasiment à front renversé, parce que finalement c'est un convoi libérateur. Les autres convois auxquels on fait allusion, 94, 44, 40 ans avant, ce sont des convois qui amènent à la mort. Et là, ce convoi va vous amener à la vie, justement. D'où ce titre finalement est fort de ce point de vue-là.
Oui, c'est un titre qui s'est un peu imposé à moi très rapidement pendant l'écriture. Évidemment, je précise dès le départ dans le livre que je sais que ce mot de convoi est très connoté dans la société d'où je parle maintenant, qui est aussi la mienne, la France, et la société occidentale, et en précisant bien que moi, nos convois, c'était des convois de la vie, alors qu'ici, ils renvoient au convoi de la mort. Néanmoins, j'ai tenu à garder ce mot-là, puisque c'était... Tout simplement, le mot qui était utilisé, c'était, on disait, vous allez partir avec un convoi, et que, alors j'avais hésité à mettre le convoi du 18 juin, mais ça faisait vraiment double référence, trop, et en l'occurrence, aussi, ce livre ne parle pas que du convoi du 18 juin, puisque mon enquête m'a amené à réaliser qu'il y en avait eu plusieurs. Bon, je savais déjà, quand j'ai commencé, parce que j'avais des amis qui avaient survécu dans le dernier, grâce au dernier convoi, celui de début juillet, mais il s'est agi vraiment pour moi d'aller recueillir le maximum d'informations sur à la fois qui avait organisé ces convois, dans quel cadre, comment ils s'étaient déroulés, et aller jusqu'à essayer de retrouver les différents protagonistes, et notamment les enfants des différents convois.
Et pour poursuivre avec ce fil-là, vous dites d'ailleurs que par rapport à la Shoah, que c'est au contact de ces survivants des camps nazis que vous avez forgé votre langue pour ce livre.
Au contact de leurs mots, en tout cas, puisqu'il s'est agi pour moi, quand je suis arrivée en France en 94, et dans les années qui ont suivi, et jusqu'à aujourd'hui, quelque part, de trouver, puisque cette expérience de survie était une expérience extrêmement solitaire, j'étais entourée de gens qui ne la comprenaient pas, qui, pour certains, n'étaient même pas en capacité de l'entendre. Il s'agissait pour moi, pour me construire en tant que jeune femme, de trouver des mots d'autres qui puissent habiller cette solitude et en tout cas y mettre un sens. Et en l'occurrence, dans ce livre, effectivement, je suis pratiquement constamment en train de tendre la main vers ces autres histoires de génocide. Alors, il y a effectivement les survivants des camps d'extermination nazis. Mais par moments, je parle aussi du génocide au Cambodge, du génocide des Arméniens, parce que les textes des uns des autres, les témoignages des uns des autres m'ont accompagné pendant toutes ces années pour moi pouvoir trouver une langue, pour me tenir debout aussi.
Alors on va faire une première pause musicale avec une musique que vous avez choisie, de Max Roach. C'est du blues, mais un espèce de blues justement. J'ai plus le titre en tête là.
Freedom Now.
Voilà, et c'est quelque chose de plutôt tourné vers la vie, si je ne me trompe pas.
Alors, c'est vraiment une référence à mon fils, parce que mon fils, qui a 15 ans, donc aujourd'hui, est musicien, il est batteur, et il me fait beaucoup découvrir... j'aime bien écouter, même quand il a des conversations avec d'autres personnes sur les musiques, et en l'occurrence, c'est une façon d'écouter la jeunesse aussi, avec leurs choix, qui sont parfois des morceaux très anciens. Hein.
Must be lying, can it really be? Can't conceive it, can't believe it, but that's what they say. Slave no longer, this is Freedom Day. Freedom Day, it's Freedom Day. Throw those shackling chains away. Everybody that I see says it's really true if free.
Revenons, Béata, revenons à ces mois et ces semaines qui précèdent votre départ du Rwanda. Quelles sont les conditions dans lesquelles vous avez été contrainte de vivre avec votre mère?
Comme la plupart des Tutsis, à partir du 7 avril 1994, en se cachant et en ayant une menace de mort constante au-dessus de nos têtes. Alors nous habitions dans le centre-ville de Boutaré, dans un appartement qui jouxtait un complexe hôtelier qui datait de l'époque coloniale. Et cet élément est important parce que c'était donc un immeuble très, très large, avec des chambres d'hôtel, mais également avec une cave, ce qui était un fait extrêmement rare au Rwanda, parce que dans la construction des maisons sur les collines, il n'y a pas de cave, il n'y a pas de grenier. Et là, en l'occurrence, comme c'était une construction datant de l'époque des Belges, il y avait des caves et c'était une cachette que les tueurs ne cherchaient pas, ne sachant même pas que ce genre de choses existent. En général, quand ils attaquaient les maisons, ils allaient directement regarder dans les faux plafonds, parce que beaucoup de gens se cachaient dans les faux plafonds. Et pour le coup, c'était des cachettes très faciles à trouver. Donc nous avons été, nous sommes quand même passés de lieu en lieu, puisqu'à un moment donné, la vie dans cette cave qui n'avait pas été ouverte depuis des décennies, donc les murs étaient couverts de cafards et où l'air était assez très 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 humide et difficilement respirable, on a dû passer à un autre endroit et jusqu'à ce que le début du mois d'avril, début du mois de juin. Une horde de tueurs nous découvre dans une des chambres de l'hôtel où on était, avec donc ma maman et une autre dame qu'on avait croisée au cours de notre fuite, sachant qu'il y avait deux personnes qui travaillaient pour l'hôtel, qui avaient des faux papiers de Hutu alors qu'elles étaient Tutsis, qui nous aidaient, qui nous nourrissaient, qui nous avaient aidés à nous cacher, et deux Hutu également qui travaillaient là et qui, dont on soupçonne qu'ils ont fini par dire qu'on était là, qui étaient présents au moment de cette attaque, et d'autres Tutsis salariés de l'hôtel qui se cachaient dans des... pas loin de nous, ont été découverts au même moment, et deux d'entre eux ont été tués sur le champ, et pas nous.
Et jusqu'au moment où vous finissez par être découvert, et tu utilises un stratagème pour éviter la mort, en fait, en te présentant comme fille de Français.
Oui, quand ils ont, je le raconte dans le livre, quand ils ont cassé les vitres et forcé la porte et qu'ils nous ont découvertes, une des premières exclamations de leur part a été, en me voyant, de dire « il y a une blanche », parce que les métis souvent sont considérés comme blancs, désignés comme blancs dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, en l'occurrence au Rwanda aussi. Et du haut de mes 15 ans, sans avoir vraiment, sans avoir du tout rien préparé, me vient cette idée, et vraiment c'était qui tout double, hein. Je décide d'être vraiment une blanche, alors que j'avais été scolarisée dans une école internationale, donc je parlais couramment français sans accent, mais je n'avais jusqu'alors été élevée que par ma famille noire, ma maman. Mais je rentre dans un rôle, je crée une identité, je fais semblant de ne pas comprendre ce qu'ils disent, donc de ne pas comprendre la langue nationale du Rwanda, le Kinyarwanda. Et ma mère, parce que je lui dis « mais qu'est-ce qu'ils disent, je ne comprends pas », saisit qu'il faut... jouer ce rôle également, et elle commence à me traduire, et je leur dis mais moi je Mon père est français. Vous ne pouvez pas me tuer parce que j'étais une adolescente fait assez rare qui s'intéressait à l'actualité et qui savait. Je pense que c'est un sujet que vous avez déjà abordé dans l'émission ici, qui savait que l'État français, enfin, les politiques français, les militaires français soutenaient ce gouvernement génocidaire et que pour ces tueurs-là, la France était un pays ami.
Mais ça protégeait, quoi, d'une certaine
voilà.
manière.
Voilà. Et c'est cette peau. Cette langue, c'est-à-dire le fait de ne leur parler qu'en français. J'ai la présence d'esprit aussi d'identifier, parce que c'est une horde de plutôt de paysans, d'identifier parmi eux celui que je devine être le chef, parce qu'il, pour le coup, lui, n'a pas l'air de tuer, il n'a pas les vêtements couverts de sang, et il a une chemise propre, un bic qui dépasse, donc je me dis, lui, ça doit être
le chef.
Un intellectuel, donc je m'adresse à lui, et cette adresse aussi, quelque part, crée quelque chose. Enfin, voilà, c'est... ça aurait pu ne pas fonctionner. Ce jour-là, ça a marché. Comment l'expliquer? Eh bien, je mets tous les éléments sur la table en disant, j'avais la couleur de peau, j'ai parlé français, j'ai... Évoquer François Mitterrand, et ça a fonctionné.
Oui, la présence d'esprit d'avoir ça en tête et de jouer avec ça, oui, c'était quand même... c'était fort, quoi.
Mais c'est pour ça que quand j'interviens dans les établissements scolaires, et je le raconte en témoignant notamment devant dans un lycée à Nice, le lycée Thierry Monnier... quand je m'adresse aux adolescentes et aux adolescents qui ont l'âge que j'avais à l'époque, j'essaye vraiment de leur faire passer des messages en leur disant d'être vigilants, de s'intéresser à l'actualité, de savoir ce qui se passe dans le monde, parce que, quelque part, c'est ça qui m'a sauvée ce jour-là. De lire les journaux, de savoir quels journaux ils lisent, de savoir qui produit les informations qu'ils consomment quand ils en consomment, et d'avoir vraiment de développer l'esprit critique. Et quelque part, j'incarne ça, c'est-à-dire que les parents ou les professeurs peuvent leur dire, mais quand une femme arrive et leur dit « à votre âge, ça m'a aidé », donc ce n'est pas quelque chose de futile, ni de et ça a un impact dans les vies concrètes des gens, ils l'écoutent.
Et donc là interviennent cette fameuse association Terre des Hommes, ONG suisse, qui vous prend en charge, qui vous héberge d'abord dans une école, et qui vont vous permettre de partir dans un convoi. Là encore une fois, hein, vous n'aviez pas votre place, parce que c'était réservé aux enfants de moins de 12 ans. Et malgré tout, vous empruntez ce convoi. Là aussi, il y a de nouveau, grâce à ces gens, une nouvelle chance.
Oui, 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 et j'ai été alors interrogée. Et malheureusement, le monsieur qui a organisé... Alexis Briquet, qui a organisé ses convois au début, et puis ensuite il sera rejoint par sa compagne, Diana Cavadini, est mort très très peu de temps après que je l'ai trouvé, donc je n'ai pas pu lui poser toutes les questions, je n'ai pas pu recueillir toute sa mémoire de ces événements, mais j'ai quand même pu lui demander comment... le souvenir qu'il en gardait. Il avait un souvenir très précis de ma maman et moi, et du fait que, voilà, on lui avait demandé de nous laisser... Et j'ai compris que c'était une religieuse amie de ma maman qui avait intercédé. Mais... Et là encore, c'est un convoi qui doit parcourir une trentaine de kilomètres, qui va le faire au bout de très longues heures, parce que depuis la ville de Boutaré jusqu'à la frontière avec le Burundi, il y a énormément de ce qu'on appelait des barrières, c'est des sortes de checkpoints dressés par les miliciens, Inyarram, extrémistes Hutu, avec armés de machettes, de gourdins, de coutelas, et qui espèrent à chaque fois pouvoir retirer les enfants des convois pour les tuer, sachant que dans ces camions, il y a beaucoup d'enfants tutsis, mais comme Terre des Hommes s'est adressée au départ à des orphelinats, à des enfants, des groupes d'enfants handicapés qui étaient pris en charge par des structures et qui se retrouvaient pris dans... Parce que parallèlement au génocide, il y avait aussi une guerre. Il y avait également des enfants Hutu. Et ce qu'on ne sait pas d'ici en France, c'est que Hutu et Tutsi ont la même langue, la même religion, la même couleur de peau, la même culture, et que ce n'est ni au nom, ni a priori au visage, même si on peut dire, oui, il y avait des traits plutôt Tutsi ou Hutu, mais ça aurait été compliqué, et ces enfants n'avaient pas de carte d'identité, donc... Mais ça a été le voyage le plus long de toute ma vie. C'est 30 kilomètres.
Et donc, in fine, il y a le passage de la frontière au Burundi et la suite qu'on a racontée tout à l'heure. Vous partez à Lille. Pardon. Mais c'est là que donc, tout se noue pour ce qui est votre travail de mémoire personnelle, c'est cette quête, cette enquête à partir d'une photo qui est prise à cet endroit-là, et qui est sur
le bandeau de couverture
du livre, où donc vous passez la frontière et vous êtes sur ces images. En fait, il y a des journalistes de la BBC qui filment, et des photographes qui photographient. Et donc c'est toute votre... Vous allez apprendre ça un jour, qu'on vous a vu sur des images de la BBC. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est ce qui va déclencher cette quête, cette enquête, et qui va provoquer, in fine, l'écriture du livre. Et donc, ça a été très compliqué. Ça, c'est pas...
ça a été un parcours de combattante. Hein. Dans un premier temps, donc, je contacte les journalistes de la BBC. Je rencontre Fergal Keane, qui est le grand reporter qui, à Londres, souffre de syndrome post-traumatique lié, entre autres, pas que, mais entre autres... à cette expérience de ces deux semaines où ils ont traversé une partie du Rwanda en juin 94. Il me remet le documentaire qu'ils ont fait, qui comprend à peu près 2 minutes du convoi, sur lequel je ne me vois pas, je ne vois pas ma maman, et je me dis, bon bien, c'est un cul-de-sac, ma quête s'arrête là. Quelques temps après, un autre de l'équipe, qui lui était le preneur de son, qui était journaliste sud-africain, nous contacte par courriel en disant « Eh bien, j'ai reçu votre mail. Et puis, mes étudiants, il enseigne dans une école de journalisme au Lesotho, m'ont dit « Mais il faut vraiment que vous les contactiez. Enfin, c'est incroyable, cette histoire. » Donc, il me dit « J'ai quatre photos prises ce jour-là. Peut-être que vous êtes dessus. » J'ai ces quatre photos dans mon ordinateur, je les regarde, je ne me vois pas, mais déjà j'approche un peu, parce que dans un creux, au fond d'un camion, on voit bien qu'il y a quelque chose d'étrange. C'est parce que ma mère et moi, on était couchés avec des tissus au-dessus de nous, et les enfants au checkpoint s'asseyaient au-dessus de nous pour que justement on ne voit pas, parce que nous on n'avait pas l'autorisation d'être dans ces convois. Et c'est en creux, c'est par le vide que la présence est affirmée. Mais néanmoins, ces photos-là, je les garde de nouveau dans mon ordinateur sans rien en faire. Il faudra encore des années pour que je réalise que, eh bien, cette quête que moi j'ai pu faire de chercher des images, mais peut-être que d'autres enfants qui sont visibles sur ces photos sont en train de les chercher quelque part. Et ma démarche première, ou en tout cas la seconde, étape de ma démarche consiste à essayer de trouver la liste des enfants du convoi des 18 juin, que je n'ai toujours pas trouvé. Mais à chaque cul-de-sac, à chaque arrêt, finalement une autre piste s'ouvrait à moi, et je me disais, mais tiens, ça je ne l'ai pas fait, il faudrait que je le fasse. Et en cherchant cette liste d'enfants, je trouve les humanitaires, que je n'avais pas cherché, et c'est aussi un mystère pour moi de pourquoi je n'ai pas chercher ces gens-là pour les remercier, alors que par ailleurs, toutes les personnes qui m'ont aidée, ou pratiquement toutes, depuis l'enfance, j'ai été dans une démarche de gratitude et d'aller retrouver les gens. Et donc je retrouve les humanitaires, et en les retrouvant, ils me disent, enfin Alexis Bréquet me dit, mais nous étions accompagnés par des Italiens, dont un photographe qui a pris beaucoup de photos. Et alors, Alexis disparaît très brutalement, mais je contacte ce journaliste italien, ce photographe italien, et c'est là que, au bout de longs mois, parce que il y a aussi des incompréhensions, j'ai rencontré des gens qui parfois ne saisissaient pas à quel point c'était important pour moi de trouver ces photos, et ça c'est quelque chose qui a été difficile.
Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il y a quelque chose d'administratif et de compliqué, quoi.
Il y a deux choses. Il y a à la fois le côté administratif des archives, ou que ce soit les archives de Terre des Hommes, les archives du CICR auxquelles je n'ai jamais pu avoir accès, ou les archives du Tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha, ou quelque part, c'est extrêmement long, c'est compliqué, c'est plein de portes qui se ferment, et où on se rend compte aussi que finalement, si on est journaliste, si on est chercheur, si on est
c'est plus facile.
Humanitaire, on va avoir accès, mais quand on est la
victime
et la personne dont c'est l'histoire intime, finalement,